Bonjour à tous, fuyons ensemble le vacarme de la ville et prenons la direction des champs.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le troisième jour de notre série consacrée à l'économie des territoires. Hier, nous avons fait une halte dans les grandes métropoles de l'Hexagone, ces pôles de compétitivité où se concentrent les richesses, les talents et les inégalités. Nous avons sillonné les festivals et les nouveaux musées qui espèrent relancer l'activité dans les régions en perte de vitesse. Des régions où de nombreuses communes dénoncent le recul de l'État et la baisse des dotations. Alors quelle est la réalité de cette fracture territoriale mise en lumière par le mouvement des Gilets jaunes? Voilà la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons arpenter les territoires ruraux en compagnie de Pierre Sauvêtre, sociologue, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre, en compagnie également d'Anna Povoas en duplex de Bruxelles, chercheuse en sciences sociales et chargée de recherche à la faculté d'architecture de l'Université Libre de Bruxelles. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Anna Povoas et Pierre Sauvêtre.
Bonjour.
Bonjour.
Lors de la conférence des maires en novembre 2019, Emmanuel Macron appelait les élus à lutter, je cite, contre les fractures territoriales, numériques, sociales. Des fractures qui ont été mises en lumière, je le disais, par le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi par le livre de Christophe Guillouis, La France périphérique, sorti en 2014, on va en parler. Mais d'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de fractures territoriales, Pierre Sauvêtre ?
Le terme de fracture, il est assez connoté dans le vocabulaire et l'histoire politique française. Est-ce qu'il y a, en général, quand on parle de fracture, on parle d'une seule fracture? Donc c'est une première question. Est-ce qu'il y a une fracture ou des fractures? Moi, je parlerais plutôt d'inégalité territoriale. En fait, c'est les inégalités quant aux ressources qu'offrent les territoires sur différents aspects que les différents chercheurs peuvent définir différemment. Accès à l'emploi en particulier, le niveau des salaires, accès au logement, à la culture, aux services publics.
Donc, est-ce que ces inégalités sont vraiment liées au territoire ou est-ce que finalement on parle de fracture territoriale là où il faudrait simplement parler de fracture sociale ou d'inégalité sociale, Anna Povoas?
Tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis très contente de dialoguer avec vous depuis Bruxelles. Donc, effectivement, il y a une dimension spatiale quand on évoque les sentiments d'injustice en France. Et j'aimerais commencer par répondre que il y a une perception d'une fracture et on doit l'écouter puisque la justice, ça sert à assurer la cohésion sociale et la paix. Donc, dès qu'on a des mécontentements, des souffrances, des révoltes, il faut entendre une injustice. Après, est-ce que c'est cela la seule lecture qui peut être faite de cette situation géographique, même si on pense qu'il y a la justice? Là, la réponse est beaucoup plus nuancée. Et si on s'appuie sur les discours de justice spatiale des citoyens français, tels qu'on a pu récolter dans des recherches empiriques, effectivement, il y a d'autres manières de relier la justice et l'espace.
Et, inégalité sociale ou inégalité spatiale, difficile de faire la différence, Pierre Sauvêtre.
Bien sûr, les deux sont intriqués, mais en effet, ce que remarquaient les sciences sociales depuis un certain nombre d'années, c'est que il y a une dimension spécifiquement spatiale des inégalités sociales, c'est-à-dire par exemple en termes d'accès aux équipements, en termes de distance qu'il peut y avoir entre les groupes sociaux et leur emploi. Ça donne une dimension supplémentaire, disons, aux inégalités sociales.
Alors, je parlais de l'ouvrage de Christophe Guillouis qui a fait l'objet de nombreux débats. Anna Povoas, est-ce que vous partagez son idée d'une France périphérique qui serait délaissée par les pouvoirs publics et qui, selon lui, représenterait 60% de la population ?
Non, en effet, je partage pas l'analyse faite par Monsieur Gulli. Je pense qu'il part d'une amalgame de deux situations géographiques. L'une, c'est ce qu'on appelle le périurbain, c'est-à-dire ce sont des lieux qui sont encore attachés aux pôles urbains. Ce sont les couronnes périurbaines sont définies à partir des déplacements domicile-travail. Et en effet, ces zones-là, elles sont les plus aisées en France. Et puis, les zones rurales, que sont les zones moins denses, et où il y a effectivement une présence de ménages en situation de difficulté. Mais là encore, ni en termes relatifs, ni en termes absolus, ce n'est pas là où est la pauvreté en France.
Il est difficile de faire une distinction trop tranchée entre une élite urbaine et un prolétariat rural, Pierre Sauvêtre.
Oui, alors il y a quelque chose, à mon avis, de globalement de juste dans ce que dit Guy Louis, c'est-à-dire une opposition entre une France des métropoles et des territoires qui aujourd'hui forment autant de trous en fait dans cette et de territoires qui sont entre les métropoles et qu'on ne fait que traverser. Parce que les pouvoirs publics, depuis un certain nombre de gouvernements, ont axé la politique urbaine sur la mise en avant de ces métropoles comme pôle de compétitivité, pôle d'attractivité. Après, c'est une opposition, celle que fait Guy Louis, entre France périphérique et France des métropoles, qui est trop schématique. Schématique. Il y a un aspect très très polémique dans ce que dit Guy Louis, c'est le fait que les banlieues urbaines ne seraient finalement pas si mal loties parce que elles sont à proximité des métropoles et donc des bassins d'emploi. Or il y a effectivement des banlieues qui sont très en difficulté socialement et économiquement. Et donc ensuite il y a d'autres aspects, si vous voulez. Il y a des régions rurales par exemple qui sont attractives, comme la Drôme, qui font partie de ce que Christophe Guy Louis appelle la France périphérique. Donc cette opposition me semble trop schématique. Et ce qui est gênant, pour terminer là-dessus, c'est sa portée politique, c'est-à-dire que c'est une opposition qui est faite pour recouvrir une opposition sociale et culturelle, alors qu'en fait l'ensemble de ces aspects ne se recouvrent pas, entre des travailleurs blancs paupérisés et un ensemble qui serait constitué par des classes urbaines favorisées et des populations immigrées qui finalement ne sont pas si mal loties. Et ça, c'est très gênant en fait.
Il y avait cette idée chez Christophe Guy Louis que c'est la France périphérique qui subirait les conséquences de la mondialisation. Mais si l'on regarde de plus près à Napovoas, les populations des banlieues, comme le disait Pierre Sauvêtre, mais aussi les classes moyennes des villes, subissent aussi ces conséquences-là.
Oui, en effet, moi personnellement, je suis très gênée par des analyses qui visent à opposer des groupes de population. Je pense que la mondialisation, elle présente des défis dans nos styles de vie, dans les compétences personnelles qu'on doit développer pour développer un projet de vie. Et cela existe aussi dans les gens qui habitent dans les villes. Donc globalement, comme approche de soutien à la construction d'une société démocratique, moi je ne vois pas la valeur ajoutée de ce type d'opposition.
Alors si on entre un petit peu dans le détail des revendications des élus des villes petites et moyennes, ce qu'ils dénoncent, c'est la concentration des emplois et des salaires élevés dans les grandes villes. Comment est-ce qu'on explique cette concentration, Pierre Sauvêtre ?
Il y a plusieurs effets importants qui se conjuguent, à mon avis, maintenant dans les grandes villes, qui sont la gentrification et la spéculation immobilière, et les deux en réalité s'alimentent. Et cette spéculation immobilière, en particulier, les pouvoirs publics souvent n'arrivent pas à s'y opposer ou ne veulent pas s'y opposer, parce qu'au fond, elle les arrange, elle permet de lever davantage de taxes locales et donc d'avoir plus de moyens pour satisfaire les électeurs et permettre leur réélection. Donc il y a cette convergence qui implique une très forte barrière à l'entrée pour ceux qui voudraient éventuellement s'installer dans ces centres-villes qui deviennent de plus en plus fermés.
Et puis la désindustrialisation est passée par là, ainsi que le progrès technique. Je vous propose d'écouter un extrait du film britannique Pride, sorti en 2014.
Alors, dans la famille...
On l'appelle la grande faille atlantique. Et elle commence ici, en Espagne. Puis elle passe sous le golfe de Gascogne. Et elle refait surface au sud du pays de Galles. Et ensuite, elle passe sous l'Atlantique pendant des kilomètres et des kilomètres. Et elle ressort à nouveau, en Pennsylvanie.
Je me souviens que mon père en parlait.
Le mien aussi. L'artère noire.
C'est ça, oui, c'est bien ça. Et vous pouvez demander à un mineur d'ici, d'Espagne ou d'Amérique, si vous lui montrez ce filon, vous pouvez être sûr qu'il le reconnaîtra. Il n'y a pas de charbon comme ça. Il est parfait, il est pur. Oui. J'ai perdu mon petit frère dans cette mine. Il avait 36 ans, mais sans la mine, ces villages ne sont rien, ils sont fichus. C'est ce que je dirais si je me retrouvais face à face avec cette pute de Margaret Thatcher. C'est ce que je lui dirais.
Le film se passe en Grande-Bretagne en 1984, pendant les grèves des mineurs. Ce qu'on entend ici, Pierre Sauvêtre, c'est que pour les villes minières, par exemple, il ne s'agit pas seulement de retrouver une activité après les délocalisations, c'est aussi de retrouver une identité.
Oui, ça effectivement, c'est très compliqué ce passage qu'on dû... affronter les habitants de ces villes après la désindustrialisation et en particulier le fait que toute la sociabilité se construisait autour des collectifs de travail. Ça c'est quelque chose qu'a mis en évidence notamment le mouvement des gilets jaunes. C'est le fait que dans un certain nombre de territoires un peu désindustrialisés et délaissés, il y avait aussi une sociabilité qui s'était sclérosée et que ce mouvement, en partie, enfin de façon incoative, a commencé à reconstituer. Donc moi je
c'est effectivement ce qui ressortait beaucoup des témoignages des gilets jaunes, cette impression de recréer une sociabilité.
Oui, bien sûr, bah les mouvements sociaux permettent ça.
Anna Povoas.
Alors, je ne suis pas une spécialiste de la sociologie des anciens bastions minaires, mais
plus largement sur le lien entre l'activité et l'identité et le fait qu'aujourd'hui relancer de nouvelles activités économiques, c'est refaire société d'une certaine façon.
Oui, moi j'ai l'impression que la construction de l'identité en lien avec les territoires est une question qui se pose à tout habitant du monde contemporain, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous n'habitent pas là où ils sont nés, et ils ont affaire à une mise en cohérence des références culturelles et qui sont multiples et des aspects de la tradition et des aspects qui sont des challenges du monde contemporain. Donc ça ne me semble pas spécifique au monde minier qui a dû se changer. Après, la question de la sociabilité, en effet, les modes de vie qui vont de pair avec des mobilités privées et un grand temps dédié au déplacement enlève des temps qui peuvent être passés en sociabilité. Et aussi l'existence de lieux de rencontre, qui c'est quelque chose qui est moins présente dans ce monde moins dense que nous analysons aujourd'hui.
Et ce sont aussi des distances qui peuvent représenter un obstacle à l'emploi en termes notamment de coût du transport, Pierre Sauvêtre.
Oui, bien sûr, ça c'est un aspect déterminant dans des régions paupérisées. Il y a une très bonne enquête qui a été faite par Benoît Coquart, un sociologue qui s'est intéressé à la question du Grand Est. Et effectivement, le fait qu'il y a moins d'emplois fait que les emplois sont plus loin. Et donc, ces gens passent beaucoup de temps, les gens de ces territoires, à circuler, à se déplacer en automobile. Et donc, la question du coût du transport devient un aspect très important, une dimension des dépenses contraintes très forte, au même titre que en ville, ça peut être le logement qui est le premier poste très très, très important. Le transport va être un poste aussi très fort dans les endroits. Voilà, où il y a moins d'emplois, moins d'équipements, moins de services publics.
Ça peut même inquiéter éventuellement les employeurs qui vont redouter une moindre productivité des travailleurs parce que justement il y aura des temps de trajet trop importants.
Bah oui, ça c'est un aspect qui a toujours intéressé les employeurs. C'est pour ça que dans certains cas ils financent en partie le transport de leurs salariés.
Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de la famille Clour, qui est extrait du documentaire de François Ruffin. Merci, patron.
Pour nous, c'est des pions. Nous, on a trouvé. Ouais, pour nous, c'est un pion. Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé.
C'est tout.
C'est tout, maintenant. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini.
Mais est-ce que vous avez vraiment cherché du travail?
Ah oui, hein. On peut vous montrer les lettres qu'on a. Hein.
Nous avons le regret de vous annoncer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande d'emploi au sein de la commune de Louvigny-Quesnoy. L'ensemble des postes étant pourvu actuellement, cependant nous gardons en réserve votre candidature. Bon, il y a encore un espoir alors.
J'espère
avoir un espoir de tout ça.
Donc ça fait 4 ans que vous envoyez des courriers comme ça, toutes les semaines?
Ben je roule.
En roue?
Quand je peux rouler, quand j'ai de l'essence, je roule. Attends, je ne peux pas rouler, je ne roule pas.
Ça veut dire quoi? L'essence, il y en a toujours à la pompe à essence.
Oui, mais j'ai pas tout pour faire plein.
Il faut avoir les moyens de se remplir de l'essence.
Il faut que je mette 5 euros d'essence, ou je peux mettre 10, j'en mets 10, c'est tout, je peux pas aller plus. 5 euros, on fait pas beaucoup de kilomètres.
On n'a pas de chauffage, hein. D'habitude on a du mazout, tout ça, non, on ne saurait pas. On a encore du mazout.
Et je vis qu'une pièce.
On vit qu'une pièce.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois?
On mange pas.
Anna Povoas, que vous inspire ce témoignage de cette famille qui vit dans la commune de Poix-du-Nord, à 25 km de Valenciennes?
Alors, il est effectivement touchant ce portrait, cet autoportrait, mais est-ce qu'il est représentatif de la population qui s'installe dans les campagnes, notamment pour y trouver des logements à prix abordable dans un projet de devenir propriétaire de leur maison? Là, je ne suis pas sûre. En effet, dans nos analyses, ce qui ressort, c'est que les campagnes sont plutôt relèvent souvent d'un arbitrage, certes contraint, mais d'un arbitrage dans lequel il y a d'emblée une connaissance sur ce qu'est l'offre de transport et éventuellement aussi de tissu économique et de la disponibilité de l'emploi. Donc je ne suis pas sûre que ça soit le portrait de la France des campagnes.
Vous êtes d'accord avec cela, Pierre Sauvette, cette idée d'un choix d'habiter plus loin des centres-villes, c'est vraiment de l'ordre du choix?
Ben là, dans ce cas-là, pas du tout. Ce qui est intéressant avec ce témoignage, c'est cette idée sur laquelle un géographe avait insisté, Kane en 68, le mauvais appariement spatial, c'est le problème de la ségrégation entre les lieux de résidence et les lieux d'emploi. Et là, justement, vous avez affaire à une famille pour laquelle le logement, la sociabilité, les appuis familiaux se sont construits dans un lieu précis. Donc, quand il n'y a plus d'emploi, on peut pas déménager au bon vouloir et changer de région suivant son bon vouloir. Donc ça, c'est d'autant plus dans un moment où quand il y a moins de services publics, en fait, ces sociabilités familiales, de voisinage, deviennent très importantes.
C'est intéressant, effectivement, de réfléchir à ce phénomène de ségrégation résidentielle, de concentration de populations précaires qu'on observe dans certains quartiers, dans certaines communes. C'est un phénomène qui entraîne un certain nombre de problèmes. Anna Povoas, notamment, justement, comme le disait Pierre Sauvette, l'absence de connexion sociale, de réseau qui permettrait de retrouver un emploi, par exemple.
Donc, en absence de ce qu'on appelle capital social, c'est ça que vous voulez dire?
Absolument.
Alors, moi, je pense que le problème, il est plus profond que cela. Ce sont des lieux qui sont à la marge, pour l'instant, des grandes dynamiques économiques, de type d'économie que nous avons à faire aujourd'hui, qui est une économie de la connaissance, qui est une économie de la technologie, de l'innovation. Et du coup, je pense que proposer comme horizon souhaitable un emploi indépendant de ce qu'il soit, indépendant de la rémunération, indépendant des perspectives qu'il ouvre, c'est questionnable. Donc je pense que la question, c'est comment peut-on intégrer ces lieux dans les dynamiques qui ont de futur et qui accompagnent la transformation de la société française, mais aussi de la société mondiale. C'est pas une question exclusivement française.
Est-ce qu'on peut relier ces lieux aux locomotives économiques que seraient les métropoles, Pierre Sauvêtre?
Oui, je voulais réagir là-dessus parce que il me semble que justement c'est aussi intéressant par rapport à Guy Louis sur les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes c'est pas des gens qui sont à l'écart des métropoles, justement c'est des gens qui vivent donc dans le périurbain, dans des zones qui sont sous l'attraction des métropoles et qui d'une certaine manière ont cru au discours libéral, au discours méritocratique libéral. C'est des gens qui ont fait des efforts de mobilité, des efforts pour de travail, des efforts pour accéder à la propriété aussi, et qui en réalité rencontrent le fait, eh bien, qu'ils n'accèdent pas aux biens de consommation aux services qui sont ceux des résidents des métropoles.
Donc ils ont joué le jeu sans obtenir ce qu'ils pensaient obtenir.
Voilà. Et ils se sont heurtés un peu à un mur qui fait que en réalité cette logique économique dont Madame Povoas parlait, en réalité, elle ne peut satisfaire l'intérêt de tous.
Et cela dans un contexte où il y a un sentiment de plus en plus fort de recul des services publics. Il y a eu un rapport de l'Association des maires de France l'an dernier qui disait que 51% des Français pensent que les territoires ruraux ont été abandonnés. Comment est-ce qu'on explique ce sentiment, Anna Povoas, et à quelle réalité il renvoie?
Alors, je pense qu'il faut un petit peu dessiner un cadre d'interprétation de cette perception d'un abandon. C'est que la France, elle dédie à peu près la moitié de son PIB à des financements publics, à la redistribution et à l'investissement et la péréquation. Et ces transferts, ils vont plutôt vers les zones moins denses et à partir de la productivité qui est plus élevée dans les villes. Donc après, dans l'offre des services, effectivement, ce n'est pas possible au présent de produire une continuité kilomètre carré par kilomètre carré dans toute la surface de la France des mêmes équipements, des mêmes infrastructures et des mêmes services. Cela aurait un coût, selon l'économiste Laurent Davier, de 300% du PIB.
Donc, mais ce qu'on peut souligner quand même, qui est assez objectif, c'est le fait que les recettes des communes ont diminué avec la suppression de la taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, on a objectivement une baisse des dotations pour les communes, Anna Povoas.
Mais les taxes locales, elles sont très minces par rapport aux taxes qui viennent directement de l'État. Toutes les taxes locales ne représentent que 15%. Et donc, pour le reste, ils continuent à avoir une subvention massive qui vient de la fiscalité française, qui vient d'un effort de transfert et de solidarité. Et c'est vrai que cela est difficile à lire parce que la fiscalité française est très complexe à la source. Et après, le gouvernement des territoires, à travers tous les échelons, ça rend aussi la lecture très compliquée. Mais nous avons toujours aujourd'hui des communes rurales qui reçoivent le double que les communes urbaines quand elles ont la moitié de la taxe de ménage pauvre. Donc,
on ne peut pas parler d'un risque d'appauvrissement de ces communes rurales?
Donc, cela dépend. Donc, ce que les maires ont demandé dans ce rapport que vous venez de citer, c'est un contrat entre l'État et les territoires. Ce que j'ai compris de la réponse du gouvernement, c'est que passer à un esprit de contrat est effectivement envisageable. Or, cela correspond peut-être à un autre modèle que celui de l'égalité des territoires qui a caractérisé les politiques publiques des dernières décennies.
Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement?
Donc ça implique que les territoires, les échelles les plus petites, notamment les régions et les départements, sont responsables par la définition de leur projet de développement. Donc ce sont leurs attentes et c'est à partir de leur capital, notamment humain, qu'ils peuvent penser leur projet de développement. Et pour cela, ils reçoivent un soutien de solidarité du reste du pays et même de l'Europe. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'après, ils sont responsables par leur propre mise en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils ont fait avec ces ressources qui étaient transférées des fonds publics. Donc ça change légèrement une approche que nous pouvons dire qui est caritative, c'est-à-dire que là où l'on pense que sont les pauvres, on continue à donner sans demander en retour. Et effectivement, c'est aussi accepter que la situation continue difficile. Donc c'est aussi, d'une certaine façon, enclausurer les gens dans le présent.
Ce qui s'oppose à l'idée, effectivement, qu'il y aurait des revenus très différents entre les territoires ruraux et les métropoles, c'est effectivement ce système de redistribution par le biais de l'impôt, ces transferts importants entre métropoles et territoires périphériques. On pense par exemple à l'exemple de Lyon, Pierre Sauvêtre.
Oui, je suis pas un spécialiste de l'exemple lyonnais. Mais ce qui est intéressant quand même dans ce cas-là, c'est que pour déplacer aussi les choses un peu vers la dimension politique, c'est que Lyon est la seule métropole pour lesquelles les habitants de l'agglomération vont élire les conseillers métropolitains, ce qui n'est pas le cas en fait des autres métropoles, puisque
elles n'ont pas encore ce statut de collectivité territoriale, mais est-ce qu'elles ne vont pas l'avoir à l'avenir? Est-ce que ce n'est pas en projet?
Je ne crois pas à ma connaissance, mais et ça fait une différence parce que le fait que les gens puissent élire les conseillers métropolitains explique peut-être aussi qu'il y ait davantage de transferts vers les autres communes du Grand Lyon.
Alors ça va être mis en œuvre pour la première fois à ces élections de mars, cette élection directe.
Oui. Qui pose par ailleurs un problème démocratique dans les autres cas. Mais bon, il n'en reste pas moins que les maires ont dénoncé et continuent de dénoncer la baisse des dotations. Et ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, quand les salaires sont bas dans une commune paupérisée, ça se voit beaucoup plus vite le retrait des services publics ou des dotations de l'État. Quand vous avez un salaire élevé, finalement, les services ont de moindre importance pour.
Et est-ce que ce n'est pas aussi cette baisse des dotations qui fait que certaines communes sont obligées justement de fusionner pour survivre financièrement? Il y a de plus en plus de regroupements de communes.
Bien sûr, il y a tous ces échelons qui ont été mis en place de l'intercommunalité, des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Bon, et là, de nouveau, c'est plutôt la question démocratique qui est en jeu, parce que finalement, ces communautés de communes disposent de plus en plus de prérogatives et au fond, les communes en ont de moins en moins.
Qui doit décider effectivement du modèle économique à l'échelon local? On peut se poser la question, et aussi la question de la réalité de ce recul de l'État dans les territoires ruraux. On poursuit cette discussion dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
In my little town, I grew up believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town, coming home after school, flying my bike past the gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. Not that the colors aren't there, it's just imagination they lack. Everything's the same back in my little town.
De Paul Simon sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Ada Povoas et Pierre Sauvêtre sont toujours avec nous pour parler de la question de la paupérisation des petites communes. Alors on l'a dit, les territoires ruraux se sentent abandonnés par les pouvoirs publics et c'est d'abord l'inégal accès aux soins et le problème des déserts médicaux qui sont pointés du doigt. Selon le rapport de l'Association des maires de France, 1,4 million de personnes seraient à plus de 30 minutes de distance d'un service d'urgence. C'est l'une des illustrations les plus inquiètes de ce recul des services publics en zone rurale, Pierre Sauvêtre.
C'est un aspect central qui s'intègre à le recul, pour ne pas dire la dégradation de l'hôpital public dans son ensemble. Hein, donc de ce point de vue, il y a une logique nationale, générale. Voilà, qui va effectivement dans le sens de cette dégradation des services publics.
Il y a tout de même des régions qui sont plus ou moins touchées par les déserts médicaux, Ada Povoas, et le problème, selon vous, vient peut-être moins de la distance que de la qualité inégale du service proposé?
Oui, en effet, la question des déserts médicaux soulève plusieurs problèmes en fonction de ce qu'on considère être l'acteur de la santé. Si on regarde, par exemple, les médecins généralistes, et si on regarde le taux de couverture rapporté à la population, En effet, il n'y a pas vraiment des déserts médicaux dans les zones des campagnes, c'est-à-dire que le recouvrement est à peu près similaire à celui que l'on trouve dans les banlieues et même dans certains centres de certaines villes, sachant que effectivement les hypercentres ont plus de médecins. Alors, ça soulève différentes questions, et une d'elles, c'est que, comme pour les restes, ou en tout cas pour une part grandissante de la population française, les médecins choisissent là où ils s'installent. Donc, c'est aussi une partie de leur projet de vie, de choisir ce lieu de travail. Donc, c'est difficile de les contrer dans ces choix, et les mesures d'attraction qui étaient mises au point jusqu'au présent n'ont pas vraiment fonctionné. Après, si l'on regarde l'hôpital comme un acteur, un lieu d'offre des soins, nous pouvons aussi interroger plusieurs dimensions. L'une, c'est effectivement le temps d'accès, c'est-à-dire que effectivement, on peut être plus loin dans les campagnes, mais le seuil des 30 minutes pour accéder en service d'urgence est très questionnable. Il est rentré dans le débat public en France au moins à partir de 2012. C'était François Hollande qui citait dans son programme de candidature aux élections présidentielles qu'aucun Français devrait être à plus de 30 minutes dans service d'urgence. Mais la littérature médicale à ce sujet propose différents barèmes pour déterminer les temps significatifs. Le plus adopté, c'est le barème de Manchester, qui identifie plusieurs seuils. Le premier est à 10 minutes, ça correspond à la présence des défibrillateurs dans tous les espaces publics. Et le suivant, donc cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une évolution de l'état de patient entre les seuils, mais le suivant, où effectivement le nombre de décès peut changer, c'est une heure. Donc les 30 minutes n'ont pas une signification effective dans la pratique médicale.
C'est en tout cas une des revendications, un des problèmes soulevés par l'Association des maires de France, tout comme la disparition d'un certain nombre d'écoles primaires publiques. 1000 écoles primaires publiques auraient disparu de 2013 à 2017 dans l'Hexagone. C'est lié à l'augmentation des regroupements pédagogiques intercommunaux qui fusionnent des écoles locales. Pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, Anna Povoas, cette fusion des écoles locales ?
Alors, les écoles du système national d'éducation restent très, très denses. Cela émerge du rapport de la Cour des comptes de 2019. Je pense que, après, il faut que je précise que ce n'est pas ce que je pense en tant que chercheur qui dicte ce qui est juste. Mais voilà, si vous me rappelez, si vous me demandez ce que je pense moi, je pense que le regroupement donne une taille qui permet d'avoir des équipes qui peuvent construire un projet pédagogique plus consistant et que le plus les enfants peuvent fréquenter un groupe de plus divers et socialiser dans un groupe plus hétérogène, plus ils seront préparés pour fonctionner dans une société diverse.
Fusion qui permet donc une certaine mixité sociale, Pierre Sauvêtre, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait privilégier un accès plus proche à ces écoles ?
C'est une question pas évidente, mais il faut dire quand même sur les écoles que les petites écoles communales, elles jouent un rôle au-delà d'elles-mêmes dans la sociabilité villageoise. Voilà, c'est aussi le fait qu'il y ait une école, ça permet aussi à des familles de s'installer. Donc quand l'école disparaît, c'est quand même un problème. Donc du coup, j'ai une petite divergence avec ce qui a été dit juste avant.
Cette question de l'école se double aussi de la question de l'accès à la 4G, par exemple. On parle souvent de fracture numérique qui exclurait toute une partie de la population. Et ça s'inscrit dans un mouvement général où on a de moins en moins de fonctionnaires, des impôts, des caisses primaires d'assurance maladie qui sont présents sur le territoire. Donc on est dans une tendance générale à la dématérialisation. Mais alors, en l'absence ou avec une mauvaise qualité de la 4G, ça exclut vraiment toute une partie de la population, Pierre.
Oui. Excusez-moi.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fracture numérique et de cette nécessité peut-être de lutter contre cette inégale répartition de la 4G sur le territoire ? Peut-être Anna Povoas sur ce point ?
Ce n'est pas non plus mon expertise, mais effectivement, le numérique a l'avantage qu'il peut desservir pas seulement les locaux, il peut aussi venir soutenir un usage des territoires pour des loisirs, pour le tourisme. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être infrastructurel dans le développement des territoires. Après, il faut savoir que les projets de développement, ça prend du temps, donc peut-être qu'on n'est pas encore là et on va y arriver. Le numérique soulève aussi la question de l'intelligence, je sais pas exactement comment on appelle ça en France, c'est pas l'intelligence numérique, mais c'est la capacité d'utiliser Internet, de remplir des formulaires, tout ça. Donc, si on a une présence de secteurs de la population plus âgée dans ces territoires qui dépendent de certains services dématérialisés, même si l'idée c'est qu'ils restent toujours un point de relais, éventuellement plus loin, mais un point de relais où il peut avoir un contact présentiel. C'est ça l'idée, selon ce que j'ai compris.
Mais en tout cas, ce recul des services publics, est-ce qu'il envoie un signal, ce recul des services publics à la campagne? Est-ce que, par exemple, on pourrait poser la question dans ces termes, est-ce qu'il faut aider les gens qui restent dans les zones rurales ou est-ce qu'il faut les encourager à partir? Dans le Star Wars de George Lucas, épisode 4, Luke rêve de quitter Tatooine, mais il est retenu par son oncle.
Je voudrais qu'on reparle de ta promesse de me laisser partir avant l'été. Si ces nouveaux droïdes sont rodés, je pourrais transmettre ma demande pour l'académie.
Et tu me laisserais 6 mois avant la moisson?
Ah oui, il y a bien assez de droïdes.
Mais j'ai besoin de toi pour la moisson. Reste une seule saison de plus. Cette année, la moisson rapportera assez d'argent pour que je puisse embaucher des ouvriers agricoles.
Et tu iras à l'académie dans un an. J'ai besoin de toi ici, tu comprends?
Mais ça fait toute une année.
Écoute, reste encore une petite saison.
Ouais, tu me l'as déjà dit quand mes copains sont partis.
Où est-ce que tu vas?
Je vais nulle part à ce qu'il semble. Je vais finir de nettoyer ces droïdes.
Alors, est-ce que le rêve de mobilité de Luke dans Star Wars est représentatif, Anna Povoaz, de ce discours dominant qui pousse à la mobilité?
Alors, moi, je ne crois pas non plus à l'injonction à la mobilité. Moi, je pense que le choix personnel, ça reste fondamental. Ce qu'on peut faire, c'est de travailler à une meilleure information des différents paramètres qui les personnes prennent en compte quand elles font les choix. Et effectivement, vous avez parlé d'un signe qu'on donne aux habitants, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas totalement la responsable. On peut pas faire retomber non plus la responsabilité individuelle les ménages qui ont fait le choix d'acheter des voitures et des maisons en périphérie quand il y a eu des incitations dans ce sens. Donc il faut bien voir qu'on est toujours dans un dialogue entre individus et société et il y a toujours une part de responsabilité partagée, je pense.
On a l'impression tout de même d'un discours en faveur de cette mobilité et cela alors même que vous l'avez dit, Pierre Sauvette, les prix des logements explosent dans les grandes villes. Donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent simplement pas bouger.
Oui, et ce que je veux dire sur notre débat, c'est qu'il ne faut pas non plus voir les habitants de ces zones rurales ou périurbaines uniquement comme des victimes. Il y a les gens se mobilisent aussi et retrouvent précisément quand ils ne peuvent pas bouger parce que de fait l'explosion du prix des logements fait qu'ils ne le peuvent pas toujours, mais que ils s'entraident, ils retrouvent des réseaux de sociabilité et au niveau des petites communes il y a des choses formidables qui sont faites par certains maires, en particulier certains maires et certaines collectivités d'habitants, en particulier dans le domaine écologique. Voilà, il y a des expériences très intéressantes. On cite souvent la petite ville de Trémarga en Bretagne, qui a reconstruit tout un réseau de sociabilité autour d'une épicerie, d'un bar.
C'est aussi ce qui est ressorti du mouvement des Gilets jaunes, cette idée que les territoires veulent une plus grande autonomie et se battent en quelque sorte contre la centralisation, Pierre Sauvêtre.
Ben, il me semble, oui, que c'est une dimension extrêmement, extrêmement importante du mouvement des Gilets jaunes. Mon collègue Laurent Jean-Pierre l'a bien souligné dans le petit livre qu'il a fait là-dessus, que c'était un mouvement qui était décentraliste et qui, pour une partie en tout cas du mouvement des Gilets jaunes, allait vers l'autonomie et pas seulement, j'allais dire, une demande d'autonomie, mais une prise d'autonomie, qui est d'ailleurs pas visible uniquement dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qu'on voit aussi dans certaines expériences municipales, communales, où s'organisent même parfois des modes d'autonomie économique, d'autonomie alimentaire, agricole. Et il me semble que ça, c'est en termes de rééquilibrage territorial, c'est une dimension extrêmement importante qui fait pas seulement appel à l'État comme instance qui va précisément permettre ce rééquilibrage.
Et alors, quelle place ces revendications d'autonomie prennent-elles, Anna Pauvoise, dans la campagne actuelle pour les listes, pour les municipales? On a vu des listes citoyennes apparaître qui s'inspirent de la tradition politique du municipalisme, par exemple, avec cette idée de transformer la société par le bas.
Alors, moi, je trouve que l'échelle municipale est un peu problématique dans le contexte de construction de ce projet de développement dont je parlais tout à l'heure, parce que pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que aujourd'hui nos bassins de vie englobent plusieurs communes. Ça dépend des cas, mais effectivement, pour penser la complexité que relie espace de travail, l'éducation, les loisirs, le sport, la mobilité, le tissu économique, la logistique, les fournitures alimentaires, donc pour penser tout cela, il faut une échelle plus large. Donc moi, je pense que les dialogues citoyens qui peuvent aboutir à définir un projet cohérent, une vision cohérente, doit être fait à une échelle plus grande que la municipalité, que la commune.
On entend tout de même de plus en plus que les communes seraient le bon échelon pour agir efficacement, face aux crises sociales et environnementales, Pierre Sauvêtre.
Bah oui, l'échelon local est l'échelon écologique en partie. Donc effectivement, ce qu'il y a de très intéressant là dans la perspective des municipales et qui est nouveau en France, c'est le fait que il va y avoir des listes citoyennes dont certaines sont affiliées à des partis politiques, donc vont refaire une politique un peu classique, mais d'autres sont des listes citoyennes indépendantes qui se revendiquent en effet du municipalisme, qui est un courant qui vise finalement la réappropriation de la politique et de la chose publique par les citoyens à l'échelle communale. Et donc c'est un aspect démocratique très 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 important qui a connu certains effets en Espagne, notamment au cours de ces dernières années. Et au-delà même de cet aspect démocratique, il y a cette dimension également d'autonomie, me semble-t-il, dans les projets qui peuvent être menés par les communes, autonomie énergétique, autonomie agricole, autonomie alimentaire. La petite ville d'Ungersheim en Alsace est une expérience très intéressante de ce point de vue-là. Donc c'est pas simplement, je termine, une démocratie délibérative, mais une démocratie de ce qu'on appelle les communs, ces formes auto-organisées des citoyens.
Il y a un autre exemple intéressant que je voudrais vous soumettre, c'est celui de Puy-Saint-André dans les Hautes-Alpes, un village de montagne d'un peu moins de 500 habitants.
Donc en fait, on a fait une réunion publique dès qu'on a été élu, quelques mois après, en disant aux gens, ben voilà, nous on aimerait bien que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les familles ont dit oui, ça nous intéresse, on a envie de participer. Et donc on a créé avec eux la première société d'économie mixte locale en France qui associait une collectivité et des citoyens. Au début on a commencé petit, tout petit. C'est une société avec 100 000 euros de capital social. Sauf que on a fait une première centrale, puis une deuxième, puis une troisième. Puis après, on s'est dit, on va aller chez les voisins. Donc, on a mis une autre centrale sur le village d'en face. Puis après, dans la ville à côté. Et là, on avait épuisé le capital social, on avait épuisé notre capacité d'emprunt. On a fait une ouverture à capital. Et comme les voisins, ils avaient vu qu'on avait des résultats étonnants, on distribuait des dividendes. La communauté de communes est rentrée au capital, la commune d'à côté, puis celle d'à côté, puis celle d'à côté, puis d'autres citoyens, puis des entreprises. Et là, on en est à 16 centrales photovoltaïques qui sont reliées au réseau sur des bâtiments publics ou privés. Et ça fonctionne très bien.
Pierre Leroy, le maire de Puy-Saint-André, donc, qui est un village autonome sur le plan énergétique, comme on l'entendait. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anna Povoas ? Est-ce que ce n'est pas une belle réussite d'indépendance énergétique et de décision locale ?
Alors, je pense qu'effectivement, il faut saluer tout ce que relève de la mise en synergie, de la prise d'initiative. Ça, c'est très, très important. Alors, dans la géographie contemporaine, nous savons que les espaces sont très interdépendants de nos jours. Donc, avoir des projets autonomes à cette échelle, pourquoi pas, pour certaines thématiques, mais pour d'autres, les choses se jouent à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, donc il faut rester attentif et peut-être pas généraliser le modèle à toutes les thématiques.
Mais en tout cas, sur le plan énergétique, écologique, l'échelle locale vous paraît pertinente ?
Je pense que même pour répondre à cela, il faut regarder dans les détails. Parce que, par exemple, pour tout ce qui est écologique, effectivement, on a la perception généralisée que les circuits courts sont plus écologiques, mais pour certains produits, l'énergie qu'il faut employer pour reproduire le climat d'autres lieux est plus importante dans ses émissions que le transport de faire arriver le produit. Donc, ce sont vraiment des questions très, très, très complexes qu'il faut regarder en finesse, thème par thème, secteur.
Donc, c'est très compliqué, effectivement, d'évaluer l'empreinte énergétique d'une centrale solaire, de savoir s'il est plus pertinent sur le plan écologique, Pierre Sauvêtre, de créer un niveau local ou au contraire de centraliser pour que cela bénéficie, cette énergie, cette production d'énergie à un nombre plus important de personnes.
Oui, il me semble tout de même que la dimension de la résilience locale est un aspect déterminant de la perspective écologique, et donc ça implique la relocalisation de l'économie, et de ce point de vue-là, les communes et les initiatives des habitants, parce que souvent ça vient d'un mouvement par le bas, sont déterminantes, même si effectivement il faut les articuler avec également des perspectives plus globales sur l'écologie. Il y a une relocalisation de la politique qui s'opère en lien avec la critique du centralisme et la perspective écologique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas articuler local et global.
Articuler local et global, et pour cela peut-être qu'il faut lancer un débat ou au moins davantage de réflexion sur ce que doit être la justice territoriale en France, Anna Povoas.
Ah, ça c'est évident, je pense, parce que l'espace, la géographie des territoires, ça c'est présent, mais c'est jamais mis explicitement en avant. Et effectivement, on ne peut plus discuter de ces choses de façon générique. C'est très intéressant parce que en ce moment, j'assiste à la Convention citoyenne pour le climat depuis octobre. Et comme vous le savez sûrement, la mission qui était confiée aux 150 citoyens, c'est de trouver des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Et dans un esprit de justice sociale. Et effectivement, les citoyens se sont mis à discuter, mais c'est quoi la justice sociale pour pouvoir évaluer nos mesures, nos propositions. Et ils ont une séance pour le faire. Et ce qui a émergé, c'était un mécontentement parce qu'ils se sont dit, mais ça, c'est très complexe, on veut plus de temps, ça, c'est pas sérieux, les mots ont sens et on ne veut pas dire des choses génériques. Et du coup, ils ont...
L'importance, effectivement, d'entrer vraiment dans le détail et dans la complexité de cette géographie économique française. Un grand merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'heure pour nous de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Une certaine fébrilité dans l'industrie des télécoms autour de l'arrivée de la 5G. Les autorités françaises doivent valider les demandes des opérateurs ces prochains jours, avec ou sans Huawei, c'est la grande question.
Oui, en tout cas la pression monte sur les pouvoirs publics français qui hésitent à donner à la fin du mois aux Chinois Huawei un accès complet ou restreint au marché de la 5G. Pression diplomatique d'abord après la mise en garde lundi de l'ambassade de Chine contre, je cite, toute mesure discriminatoire. Eh bien c'était celle hier soir de la vice-présidente des affaires publiques de Huawei qui réitérait. Pression également de la part des opérateurs français puisque sur le même thème lundi, le directeur général d'Iliad, Lia Free, défendait dans les échos la flexibilité, disait-il, de travailler avec l'ensemble des équipementiers. Une partie des quatre grands opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free est déjà engagée avec Huawei et le calendrier presse alors que d'autres pays s'équipent déjà. Voici le tableau avec Guillaume Vaquero, il est expert numérique pour Wavestone.
Au total, il y a un bloc de 310 MHz qui va être attribué pour un prix minimum qui était fixé à 2,17 milliards d'euros. L'objectif était de ne pas faire s'envoler de manière trop forte les enchères, puisque derrière, en quelque sorte, chaque euro qui est investi par les opérateurs sur ces licences n'est pas investi pour le déploiement du réseau par la suite. Or, on a un enjeu particulier à assurer derrière un déploiement rapide de ce nouveau réseau 5G. C'est un peu le risque qui agite aussi certains opérateurs, en fait. Hein. C'est-à-dire, globalement, on a une expertise existante sur cette technologie Huawei. Par ailleurs, Huawei est quand même connu pour avoir des prix qui sont particulièrement intéressants. Et donc, du coup, ça pourrait avoir un impact, en tout cas, sur le déploiement. Alors, pour Orange, c'est un peu moins le cas, parce que Orange a d'ores déjà communiqué sur le fait que ils n'utiliseraient pas d'équipement Huawei dans leur réseau 5G, en France en tout cas. En revanche, pour les autres opérateurs, et je pense en particulier à Bouygues Telecom et SFR, eux, ils utilisent aujourd'hui des équipements Huawei pour leur réseau 4G, et donc on peut penser qu'ils seraient susceptibles d'en utiliser également pour le réseau 5G. Maintenant, évidemment, vu les enjeux de sécurité, je pense que l'État ne prendra aucun risque. Hein, quand on parle de véhicules autonomes, quand on parle de télémédecine, hein, avec des opérations chirurgicales potentiellement à distance, c'est autant d'usages qui, évidemment, sont très critiques, où on ne peut prendre aucun risque d'un point de vue cybersécurité.
D'autant que d'autres États, Xavier, ont commencé à prendre position pour réglementer l'accès à la 5G.
Oui, alors, interdire Huawei comme le veulent les États-Unis ou bien limiter l'accès aux réseaux non sensibles, comme vient de le faire le Royaume-Uni, ou aux seules antennes, comme il avait été question en France. En tout cas, il y a une certaine fébrilité. Du côté européen, les choses s'accélèrent. Le Bundestag allemand, hier, vient de voter une proposition assez semblable à celle du Royaume-Uni. Un sommet européen est prévu en mars. Entre-temps, la France devrait avoir donné sa position.
On passe au bref. Le FMI très sollicité ces jours-ci. Une visite en Argentine aujourd'hui. Une autre prévue au Liban. La dette, toujours la dette.
Eh oui, en Argentine, c'est le début de la mission du FMI pour restructurer les 44 milliards de dollars de dette que Buenos Aires avait contracté avec l'institution. Le nouveau président Fernandez veut le faire avant les premières échéances de paiement qui doivent arriver le 31 mars. Et alors que l'ensemble des dettes du pays est de 195 milliards de dollars, au Liban, le pays a la dette à 150% du PIB, eh bien c'est une demande officielle d'aide technique qui va être faite alors que le pays doit lui aussi commencer à rembourser en mars. Cette fois, ce sont des eurobonds.
Et pour finir, des plus-values intéressantes pour les ventes de tableaux, à commencer par un des tableaux les plus célèbres de David Hockney, vendu hier plus de 27 millions d'euros.
Oui, là, la vente vaut autant par l'œuvre qui est une des plus connues de Hockney en Californie, le Splash, tout simplement un plongeon dans une piscine, et qui vient de s'adjuger 8 fois plus cher chez Sotheby's qu'en 2006, donc que par son gain. L'autre gain de valeur pourrait venir de cette vente d'un Picasso, cette fois une nature morte de 1921, vendue par un collectionneur pour une œuvre humanitaire, cette fois non aux enchères mais à la loterie, c'est ça qui est original. 200 000 tickets de 100 euros, soit 20 millions d'euros potentiels, pour une œuvre estimée à 1 ou 2 millions d'euros. La plus-value caritative, moralité, est plus intéressante.
Merci beaucoup Xavier, et à demain. People I've Been Sad de Christine and the Queens. Merci beaucoup Anna Povoas et Pierre Sauvêtre de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à Pierre Benazé, le correspondant de Radio France à Bruxelles, qui a permis ce duplex. Et merci enfin à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Saria Brown, Aliette Ovin et Alain de Recours. À la réalisation aujourd'hui, Christine Robert, à la technique, Élise Leu.
Est-ce quelque chose de fort, quelque chose de fort? Je n'ai décroché pour personne.
Demain, on partira dans les territoires dominés par l'économie informelle en compagnie des sociologues Blandine Mortin et Michel Peraldi. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.